Bonsoir. Fin jeudi dernier de la visite du Conseil de sécurité en Afrique centrale. Depuis samedi 5 novembre dernier, les ambassadeurs de l'organe de décision des Nations Unies ont eu des entretiens avec les autorités de la RDC, de Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda et de la Tanzanie, dernière étape de leur visite. Remise et reprise difficile entre les anciens ambassadeurs et le nouveau, mis en place depuis juillet dernier. Les anciennes excellences réclament les frais de leur rapatriement avant de céder le fauteuil. Interpellation de ministres à l'Assemblée nationale. Depuis le 25 octobre dernier, 10 ministres répondent aux questions des députés sur 14 points qui concernent la politique générale du gouvernement. Dialogue entre Congolais ce vendredi analyse ce point d'actualité avec Nancy Odia de Horizon 33, une chaîne de télévision à Kinshasa. Victoire Eyobi, journaliste à Forum des As, son journal de Kinshasa. Chantal Kaimbo, rédactrice en chef chargée des enquêtes et magazines à la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise. Fin jeudi dernier de la visite du Conseil de sécurité en Afrique centrale, je vous le disais, pendant 6 jours, la mission conduite par Jean-Marc de la Sablière a circulé en Afrique centrale, la transition en RDC avec le processus électoral en cours, la sécurité dans la région de Grand Lac ont été parmi les principaux points de discussion. Je vous propose Léonard Moulamba, notre confrère, qui a été à la suite de la délégation.
La question de la présence réelle ou supposée sur le sol congolais des rebelles du FNL burundais, des FDLR rwandais, de la LRA et du Nalu ougandais a dominé les entretiens entre la mission du Conseil de sécurité et le chef d'État burundais, ougandais, rwandais et tanzanien. Il faut la coopération de tous les pays de la région pour résoudre cette question, a dit Jean-Marc de la Sablière dans une conférence de presse hier soir à Dar es Salaam. Selon le chef de la mission du Conseil, cette coopération passe entre autres par l'arrêt du flot d'armes qui entre en RDC. Et pour ça, tous les pays de la région ont un rôle à jouer. Pour le diplomate onusien, la présence des groupes armés en RDC, particulièrement des FDLR, est d'abord un problème congolais, car ce sont les Congolais qui en souffrent le plus. Mais c'est aussi un problème rwandais. Le président Paul Kagame a reconnu devant le Conseil que depuis un an, il n'y a eu ni incursion de FDLR sur le sol rwandais, ni attaque le long de la frontière avec la RDC. Il y a une nette amélioration, même s'il reste encore à la RDC beaucoup à faire, a dit Jean-Marc Lassablière, qui a souligné que cette amélioration est à mettre au compte des actions militaires robustes combinées FRDC MONUC dans l'est du pays. Dar es Salaam, Léonard Moulamba, Radio Okapi.
Tribune de presse, premier sujet retenu dans cette discussion, visite de Conseil de sécurité en Afrique centrale. On commence par Victoire Eyobi. Vous avez entendu en tout cas cette explication faite par Léonard Moulamba sur le point des discussions de Conseil de sécurité avec les autorités visitées. Mais en fait, quelle est votre analyse par rapport à cette visite de Conseil de sécurité pour cette année, précisément?
Je suis heureux d'abord de savoir que cette visite arrive juste à un mois pratiquement de la tenue du référendum constitutionnel dans notre pays. Et vous savez, le Conseil de sécurité de l'ONU, comme également les autres partenaires de la RDC, tiennent à un atterrissage en douceur du processus de transition en RDC. Mais pour cela, au travers de cette visite, nous voyons la démarche intégrée, c'est-à-dire ils mettent l'accent non seulement sur les paramètres intérieurs, c'est-à-dire à la RDC, mais ils tiennent compte également de tous les pays qui ont un mot à dire dans la situation au niveau de la région des Grands Lacs. Donc c'était tout à fait normal qu'après tous les contacts avec les autorités congolaises, que la délégation puisse également s'entretenir avec les autres partenaires et surtout solliciter leur coopération. Vous savez, ils ont un rôle très important à jouer, notamment comme on a mis en exergue l'aspect de la circulation des armes. Ce sont ces armes qui font que les milices continuent à perpétrer les crimes, à continuer à résister au niveau de l'Est du pays. Donc je pense que si l'ONU poursuit avec la démarche intégrée, on pourra à terme arriver à une solution efficace.
Chantal Kanimbo, je rappelle que vous êtes de la RTNC, rédactrice en chef chargée d'enquête et magazine.
Oui, et je crois que effectivement, à un mois pratiquement de l'organisation du référendum constitutionnel et par rapport à tous les processus électoral avec l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs qui connaît, comme nous le savons tous, quelques difficultés. Je crois qu'il était important de faire l'évaluation du processus à ces niveaux-ci avec la communauté internationale qui accompagne le processus de transition dans notre pays. Et qu'il était important que le Conseil de sécurité vienne quand même rencontrer les différentes autorités de la République démocratique du Congo pour faire le point, peut-être pour aider à booster un peu ce processus par rapport à l'opération de l'enrôlement et d'identification qui connaît quelques difficultés, pour aider la commission électorale indépendante à surmonter toutes les difficultés rencontrées pour une meilleure organisation des élections, pour qu'il n'y ait pas plus tard, lors des résultats, des contestations par rapport à la liste des électeurs, et qu'on ne dénonce pas des fraudes, qu'on ne dénonce pas des tricheries, parce que les difficultés rencontrées peuvent donner l'occasion à ceux qui estiment qu'il faut s'arrêter pour faire le point ou reprendre totalement toute l'opération. Ça serait leur donner l'occasion justement de dire qu'ils ont raison et qu'il fallait arrêter le processus et tout recommencer à zéro. Il y a également peut-être aussi, on pourrait dire, malgré tous les discours officiels tenus, un manque de volonté de la part des autorités congolaises, déjà de la part des acteurs politiques congolais, de tous ceux qui animent les institutions de la transition, un manque de volonté de faire accélérer les choses pour que les élections soient organisées. La communauté internationale s'est impliquée depuis les débuts des négociations politiques jusque maintenant. Il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans ce processus de la transition, donc il fallait venir un peu pousser les uns et les autres pour réveiller tout le monde au cas où il y aurait une certaine léthargie qui s'emparerait de tout le monde, réveiller tout le monde pour accélérer les choses dans ce processus. C'est également important par rapport au problème d'insécurité qui règne dans l'est du pays. Les pays voisins accusant notamment la République démocratique du Congo de soutenir les rebelles qui sont dans l'est du pays et qui autorisent toutes les attaques. Donc c'était important de rencontrer les autorités de la RDC, les autorités des pays voisins, pour faire le point sur les mesures prises par rapport à la sécurisation des uns et des autres pour éviter de donner un prétexte qui entacherait le processus des élections dans notre pays.
Nancy Audia, je rappelle que vous êtes journaliste à Horizon 33. Quelle est votre analyse par rapport à la visite du Conseil de sécurité en Afrique centrale?
Oui, moi je me réjouis plutôt du fait que le Conseil de sécurité ne se soit pas arrêté qu'en RDC, qu'il se soit rendu aussi dans d'autres pays cités dans tous ces problèmes d'insécurité en RDC, l'Ouganda, nos pays voisins, bien entendu la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, tous ces pays qui sont accusés d'envoyer leurs troupes en RDC pour y semer l'insécurité, ça nous pousse à interpeller, en fait, ça interpelle tout un chacun comme pour dire que ces problèmes des FDLR, LRA, tous ces groupes armés qui sèment la terreur à l'est du pays, qui déstabilisent tout le processus, c'est pas seulement l'affaire, c'est pas un problème congolais en fait, c'est un problème qui implique tous les pays des Grands Lacs, nos pays voisins. Parce que tous, s'ils peuvent s'y mettre, effectivement, manifester de la bonne volonté, on pourrait arriver à résoudre ce problème. Surtout les FDLR, c'est le plus gros morceau, puisqu'ils sont à plus de 8 000 d'après des sources onusiennes, à moins que je ne m'abuse. Et donc c'est un problème vraiment important et crucial. Et surtout que s'il faut les désarmer des forces, ça aurait des impacts sur notre territoire. Ce sont nos populations qui en pâtiraient, les femmes, des enfants qui se retrouveraient cachés dans des forêts parce que elles auraient fui leur village et tout. Nous sommes les plus grandes victimes peut-être, mais c'est tous qui doivent s'y impliquer pour y mettre fin.
C'était l'analyse générale. Rentrons maintenant dans l'étape de Kinshasa, en RDC particulièrement. Les membres du Conseil de sécurité, les ambassadeurs ont été reçus tour à tour par les vice-présidents de la République et aussi par le président de la République. Mais on a constaté que le message n'était pas un message unique. C'était des messages vraiment différents d'un vice-président à un autre. Est-ce que ça ne dénote pas d'un gouvernement à double vitesse, Chantal Kemal?
Pas à double vitesse, c'est un gouvernement d'union nationale, donc venant des différentes composantes qui forment ces gouvernements, des différentes composantes qui ont chacun sa perception des choses, donc c'était tout à fait normal que les uns et les autres donnent leurs opinions par rapport à ce processus. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal, ce n'est pas discordant, dans la mesure où le gouvernement n'est pas monocolore, il est multicolore, donc les opinions ne pouvaient qu'être divergentes par rapport aux intérêts des uns et des autres.
Mais divergent par rapport à l'action même du gouvernement, à l'action que portent ces animateurs, ceux-là qui sont aux affaires.
Bah oui, mais écoutez, bon, les enjeux sont énormes par rapport aux élections, et donc la vision ne pouvait être que différente des uns et des autres. Moi, je trouve que c'est tout à fait.
Mais est-ce que cette différence portait sur l'approche de la résolution de problèmes ou ça se portait sur le problème même, le problème fondamental?
Sur l'approche.
Victor Ayobi.
Oui, moi je crois que l'objectif est commun et connu, c'est-à-dire nous allons aux élections et c'était ça la grande préoccupation.
Et rapidement, je repose la question. Si vous estimez que c'est le gouvernement d'union nationale et que chacun doit avoir son opinion, est-ce que cette opinion, cette différence d'opinion doit se porter sur le fait ou sur l'approche?
Oui, je crois que c'est beaucoup plus un problème d'approche et c'est tout à fait normal, d'autant plus que ce sont des composantes différentes qui voient les choses différemment. Mais comme je disais tout à l'heure, que l'objectif pour tous, ce sont les élections. Et c'est ce que la délégation du Conseil de sécurité est venue rappeler aux politiciens congolais. Mais du constat recueilli de tous ces contacts, il s'avère qu'il y a une volonté commune de tous les acteurs d'aller aux élections, ce qui est une bonne chose. Mais ce que la délégation du Conseil de sécurité est venue demander, c'est beaucoup plus d'engagement du côté congolais. Et cet engagement, il fallait le recueillir au niveau des différents responsables. Parce que chacun, pour sa part, dans les secteurs qu'il dirige, il intervient dans une certaine mesure dans l'avancement du processus. Je prends l'exemple du vice-président Roubaix-Roy. Il a la gestion de la politique, la sécurité, la défense. Et vous savez que dans la défense, il y a entre autres le problème d'intégration de l'armée. Donc il y avait lieu que chacun d'entre eux se sente impliqué, s'engage de manière résolue à faire aboutir le processus.
Mais alors, que pensez-vous quand, par exemple, le vice-président Azarès Roubaix-Roy pense que la transition a de sérieux problèmes et que ça ne marche pas comme ça devait, tandis que de l'autre côté, le vice-président Yerodia pense que tout marche bien?
Oui, c'est un problème d'évaluation. Et l'évaluation, vous savez, elle doit se faire au fur et à mesure que le processus est en train d'avancer. Il y a des problèmes récurrents. Lui, il gère la politique. Vous savez, dans la politique, il y a des partis de l'opposition et non des moindres, entre autres l'UDPS, qui ont pris la décision de se mettre en marge du processus d'identification et d'enrôlement. Donc, il y a là des problèmes majeurs dont il faut prendre la mesure et voir comment résoudre à temps.
Mais alors, quel message finalement sur une même question, deux réponses différentes venant de deux autorités? Quel message finalement on donne à ces ambassadeurs de Conseil de sécurité? Quel message du gouvernement finalement?
Le message est unique, c'est-à-dire que nous avons les élections devant nous, mais pour les uns, ils pensent qu'il faut résoudre un certain nombre de préalables. Pour d'autres, ils pensent qu'on peut aller directement. C'est ça le problème.
Non, si rapidement.
Eh ben oui, c'est tout à fait normal qu'il y ait divergence d'opinion, puisque ce sont des gens qui viennent de différentes composantes. Vous savez que le RCD à une époque avait conclu des alliances avec l'UDPS et il y a eu tout ce qu'il y a eu. Et l'UDPS actuellement ne se retrouve pas dans les institutions. Il y a des démarches qui ont été menées pour qu'il y ait un dialogue, des négociations, pour essayer de mettre tout le monde autour d'une table, faire participer les autres aussi à la prise des décisions. Rien, ça n'a pas abouti. L'UDPS tape du poing sur la table et il est quelque part appuyé par le RCD, s'il faut le dire ainsi. La composante ex-gouvernement ne voit certainement pas les choses de cet œil. C'est normal qu'il y ait un son divergent par rapport à ce stade. Si, allez-y.
Alors, donc pour vous aussi, vous êtes d'avis que s'il y a eu différence, cette différence n'a jamais été sur le fond, mais sur la forme, sur la procédure.
Oui, tout à fait. Oui, justement, c'est juste sur la procédure. Parce que c'est vrai que il y a pas mal de choses qui ne marchent pas. S'il faudrait effectivement intégrer tout le monde, est-ce que ça ne pousserait pas à avoir d'autres négociations, mettre tout le monde autour d'une table encore, nous savons comment les Congolais négocient, ça risque de tirer les choses à longueur. C'est encore sur cet aspect des choses que certains réfléchissent et je pense que ça ne ferait pas avancer les choses. Tout soit plutôt les élections. Et si je crois que c'est sur cette idée-là que le Conseil de sécurité nous a tous quittés, comme pour dire que tous veulent effectivement qu'on aille aux élections, quelles que soient les conditions, pas peut-être des élections parfaites, mais des élections, les premières.
Chantal Canimo, une dernière.
Non, je voulais juste dire, ajouter ceci par rapport à l'approche. Les approches des uns et des autres sont différentes. Le RCD, par exemple, est proche de l'UDPS qui réclame un dialogue. Il faudrait que tout le monde se retrouve ensemble pour essayer de corriger ce qu'il y a à corriger. Tandis que pour le PPRD et les autres, ils estiment que c'est vrai qu'il y a d'énormes problèmes dans le processus électoral, mais les pas faits jusqu'ici sont des grands pas. Il vaut mieux aller dans ces sens-là jusqu'à l'organisation des élections plutôt que s'arrêter, perdre du temps dans de négociations qui risquent d'entraîner encore la classe politique vers des conciliabules qui feront perdre du temps. Il vaut mieux aller aux élections, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des obstacles, il vaut mieux essayer d'aplanir ces obstacles et aller aux élections plutôt que s'arrêter dans un dialogue que le RCD, le dialogue réclamé par l'UDPS, que le RCD comprend.
Mais Chantal, tout à l'heure, vous veniez de dire que la communauté internationale pompe de l'argent pour le processus en RDC et sans doute c'était aussi une occasion d'évaluer ce qui est fait sur terrain. Et bien voilà, ils arrivent, ils posent la question, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Les uns disent, ça marche, les autres, ça ne marche pas. C'est là où se portent les inquiétudes. Qu'est-ce que cela va donner comme message à ces donateurs, finalement?
Oui, mais je ne pense pas que les uns ont dit que ça marche et d'autres ont dit que ça ne marche pas.
Tout le monde a reconnu
qu'il y a des difficultés dans le processus d'enrôlement et d'enregistrement des électeurs. Tout le monde a reconnu et qu'il faudrait que la communauté internationale, justement, aide la commission électorale indépendante à surmonter ces difficultés pour améliorer ce qui est fait jusqu'à présent.
Vous avez aussi parlé de problèmes généraux de l'Afrique centrale, la sécurité, particulièrement la question des FDLR. Vous avez aussi entendu tout à l'heure le point fait par notre confrère Léonard Moulamba qui suit la délégation. C'est un vrai problème de sécurité en Afrique centrale, sécurité par rapport au Rwanda, par rapport à la RDC, par rapport au Burundi. Le point de vue de Conseil de sécurité cette fois-ci, rien n'a été pour la menace du Rwanda. Le problème reste congolais. Ce sont des Congolais qui souffrent maintenant de cette présence. Votre analyse de situation, Nancy Odia. Que pensez-vous de cette position maintenant du Conseil de sécurité qui pense que le problème des FDLR concerne beaucoup plus le Congo que les autres États?
Moi, je n'ai jamais pensé comme ça. Lors de mes émissions, sur ma chaîne de télé, j'ai toujours posé des questions à mes invités de savoir si ce problème des FDLR était effectivement congolais ou rwandais. Alors, les questions, les réponses ont toujours été divergentes. Moi, j'ai toujours pensé que c'est un problème qu'on nous a imposé, en fait. C'est pas à nous de le régler, à nous seuls.
Mais ce sont les Congolais qui ont pâti,
ce sont des Congolais qui ont pâti. Mais c'est un problème qui est purement rwandais. Nous avons eu des problèmes avec nos frères d'ici. Et nous avons initié un dialogue inter-congolais. Il y a un plus 4, on a mis ça à la guerre. Il y a personne qui meurt, mais non, la guerre a pris fin. Et au Rwanda, ils peuvent faire.
Il y a des gens qui meurent à l'est, hein. Il y a des gens qui meurent à Kavu, à Walungu.
Justement, parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas retrouvés dans les institutions actuelles. Il y a encore des forces rebelles. Il y a les rebelles des autres pays qui sèment l'insécurité et tout. Mais le Rwanda devrait organiser un dialogue inter-rwandais chez lui et intégrer ces FDLR. Je me rappelle, ils étaient prêts à cesser des armées, sans pour autant qu'on recourt à la force. Je me rappelle aussi à l'époque que Kigali avait dit niet, mais ne négocierait pas avec des rebelles. Il voudrait plutôt les traduire en justice parce que la plupart d'entre eux sont accusés d'avoir été trempés dans les génocides de 94 et tout. Il voudrait plutôt les traduire en justice, pas des négociations avec les FDLR. Vous voyez, là, ça bloque. Et c'est nous qui en pâtissons parce que s'il faut recourir à la force, c'est nous qui serions victimes. Et donc, c'est un problème qui est d'abord rwandais. Et le Congo ne fait qu'en pâtir. Et donc, c'est au Rwanda, si effectivement, ils veulent que ces gens soient désarmés, c'est au Rwanda de faire la grosse part d'efforts à fournir.
Chantal Canimbo, pensez-vous que c'est un problème purement rwandais et pas congolais.
Oui, c'est un problème purement rwandais. Écoutez, moi, je crois que ce que nous vivons aujourd'hui est la conséquence de la mauvaise gestion de la présence des militaires rwandais depuis 1994, quand le FPR a pris le pouvoir.
La mauvaise gestion par
la communauté internationale. Parce qu'à l'époque, le premier ministre de l'époque, Kingo Adondo, je crois qu'il s'était rendu dans plusieurs pays occidentaux et même africains pour réclamer une meilleure gestion de la présence massive des réfugiés rwandais dans notre pays.
Mais
c'est une question, la question des réfugiés, c'est une question qui devrait être gérée par la communauté internationale.
Mais avec le haut commissariat des armes.
Oui, mais justement, c'est ça le problème. À l'époque, le premier ministre Kingo avait demandé qu'on essaye de mettre, de filtrer les passages et de mettre les civils d'un côté et d'éloigner les militaires de la frontière.
Mais c'était du droit puisque c'était dans le territoire, on ne pouvait pas entrer, ça serait en violation avec le...
Si les autorités du pays à l'époque avaient demandé de fermer les frontières, avaient dit on ferme les frontières, on ne laisse passer personne. C'est ce qui avait été demandé, la communauté internationale s'était interposée en demandant qu'on laisse rentrer des réfugiés. Mais quand il s'est agi de gérer ces réfugiés et que les autorités zaïroises de l'époque avaient demandé qu'on éloigne les militaires de la frontière pour éviter justement le problème vécu aujourd'hui, la communauté internationale a laissé tomber le Zaïre à l'époque et a laissé le Zaïre s'occuper de ce problème seul, alors que les Zaïres à l'époque n'avaient pas les moyens. Et aujourd'hui...
Mais justement, aujourd'hui, que ce sont des Congolais qui sont morts, qui sont tués, qui sont violés, est-ce que c'est toujours un problème rwandais ou c'est un problème que le gouvernement congolais doit prendre à cœur et régler?
Non, le gouvernement congolais doit protéger ses citoyens, ça c'est un fait, et doit être impliqué dans la gestion de ce problème parce que les FDLR sont sur les territoires congolais.
Mais que pensez-vous de la gestion de cette affaire par le gouvernement de la RDC actuellement?
Mais il ne doit pas être géré uniquement par le gouvernement congolais, il doit être géré aussi bien par le gouvernement congolais que par le gouvernement rwandais et la communauté internationale.
Victor Ayobi, je rappelle, Victor Ayobi, vous êtes journaliste à Forum des Affaires.
Je m'aligne au propos de Chantal Kanimbo. Juste, je voudrais ajouter que l'évolution de la résolution de cette question a évolué dans le temps. C'est-à-dire qu'actuellement, on privilégie la solution armée. Ce n'est pas la solution politique comme elles viennent d'évoquer avec les Rwandais qui doivent organiser un dialogue inter-rwandais. Ce n'est pas cette solution-là qui est privilégiée au moment où nous parlons. C'est la solution armée. C'est-à-dire qu'en RDC, il y a déjà des brigades intégrées qui sont formées. Il y a l'appui logistique et en ressources humaines de la MONUC qui est disposée. Il y a l'opération Virunga Clear Lance qui est mise en branle. C'est cette solution-là. Et c'est par rapport à cette solution que le Conseil de sécurité demande au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire d'amener cette démarche jusqu'au bout. L'heure n'est plus au dialogue inter-congolais ou à autre solution, mais plutôt à la solution armée. La solution armée peut nous amener à deux solutions, à deux aboutissements. Soit les Rwandais acceptent de se soumettre dans le cadre du DDR, ils se désarment, et puis ils rentrent calmement chez eux, ce qui est tout à fait normal. À défaut de cela, ils seront dispersés dans les territoires congolais. Là, c'est parmi les solutions. On va les disperser dans les territoires congolais, nettoyer...
Mais là, à ce moment, ça représenterait toujours...
Attendez, nettoyer la région des Grands Lacs, nettoyer la région des Grands Lacs, essayer de pacifier les provinces du Kivu, du Nord, du Sud Kivu. C'est cela. Donc, actuellement, c'est la solution armée. C'est pour cela que le gouvernement congolais, fort de l'appui de la MONUC, des brigades intégrées et de l'appui logistique, doit prendre ses responsabilités, aller jusqu'au bout.
Non, mais si on recourt aux armes, c'est la RDC qui serait la plus grande perdante, puisque c'est sur notre territoire qu'ils vont se battre, ce sont nos enfants qui vont en pâtir, nos familles.
Vous pensez qu'il faudrait continuer avec la
solution politique? Non, mais les négociations pacifiques, c'est bon, des négociations comme nous, on l'a fait pour mettre fin à la guerre, parce que ça ne résolverait pas les choses, parce que c'est nous qui sortirions perdants dans l'histoire.
Juste une précision, je crois quand Ayobi parlait de la solution armée, c'est-à-dire qu'il faut, avant on essayait de négocier avec les FDLR. Maintenant il faut utiliser les armes pour les désarmer et les
là,
faire
retourner
chez eux.
C'est une initiative congolaise. Hein. C'est une initiative congolaise.
Avec,
on peut pas attendre
avec l'appui de la MONUC.
Remise et reprise difficile entre les anciens ambassadeurs et le nouveau mis en place depuis juillet dernier. Les ambassadeurs sortants réclament leurs frais de sortie. Un climat morose s'installe du coup entre le gouvernement et ses ambassadeurs. Un cas concret, l'ambassade de France où M. Eddy Ngoulou, l'ambassadeur, a été surpris en train de vider l'ambassade de ses documents utiles, comme le montre le chargé d'affaires Malamba Osonga.
L'ambassadeur Eddy Ngoulou a organisé toute une structure pour s'implanter davantage et notamment dépasser à l'ambassade malgré qu'il ne devait pas le faire. Il a fait en sorte qu'il puisse venir au bureau même quand on n'est pas là. Et cette fois-là, quand il est venu, mes services m'ont renseigné et je suis rentré là-bas pour voir ce qu'il en était. Et il avait un tas de véhicules qui étaient venus pour faire je ne sais quoi. Parmi les trois véhicules, il y a deux qui étaient partis, un seul qui restait. Je suis arrivé juste en ce moment, je l'ai vu. Il avait entre ses mains des cachets et un dossier qui contenait ce que nous appelons des timbres consulaires qu'on appose sur des passeports et des documents, des choses qui sortaient vers 2h du matin. Et là où j'ai trouvé anormal, et j'ai fait venir la police tout de suite et on a constaté ce qu'on a constaté.
Voilà, c'était là le point, c'est ce qui s'était passé à l'ambassade de la France, où notre ambassadeur a tenté de vider l'ambassade de ses documents utiles. Écoutons maintenant l'explication que fournit l'ambassadeur, M. Eddy Ngoulou, sur ce problème.
Il y a une cabale qui est montée. Le lundi, ils m'ont présenté 10 billets secs assortis d'un ultimatum de 24 heures pour regagner Kinshasa. Les services juridiques de l'ambassade m'ont fait savoir que le chargé d'affaires a décidé de fermer tous vos bureaux ce soir-là. À 21h, j'ai reçu un message d'un employé de l'ambassade comme quoi on est en train de cambrioler mes bureaux. J'ai appelé la police. À mon arrivée à l'ambassade, malheureusement, je ne pouvais pas accéder à l'ambassade. J'ai dû appeler un proche pour me ramener le trousseau. Je suis monté à mes bureaux et j'ai constaté que tous mes bureaux étaient fermés. J'ai dû attendre très longtemps pour essayer d'entrer dans mon bureau. J'ai constaté naturellement que plusieurs dossiers très sensibles dont certains intéressent un certain parti politique à Kinshasa ont disparu.
Voilà, c'était là l'explication fournie par l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur Eddy Ngoulou. On commence par vous, Victor Ayobi. Je rappelle que vous êtes journaliste à Forum des As, un journal de Kinshasa. Que pensez-vous de cette situation d'Ambouglio dans un pays aussi utile que la France?
Oui, je crois que c'est très regrettable ce qui vient d'arriver, mais c'est juste le résultat d'une opération bâclée dans le processus de rapatriement de nos anciens diplomates qui étaient à l'étranger. Vous savez, on a dû attendre beaucoup de temps avant de procéder au changement de diplomates. Et cette fois-là, toutes les dispositions n'étaient pas réunies. À preuve, les diplomates se plaignent entre autres du fait qu'on leur a donné juste des titres de voyage et rien de plus au-dessus de cela. Donc, il y a des responsabilités à tirer d'abord au niveau du ministère des Affaires étrangères ici et également déplorer le fait que la logique des composantes a mené la politisation de la diplomatie congolaise. Et il y a là également la dignité.
Comment cela s'est montré concrètement, la logique des composantes?
Oui, la logique des composantes, c'est-à-dire que les uns et les autres maintenant se sentent frustrés d'être remplacés par tel ou tel au moment où ils pensaient servir la République sans d'autres pensées. Vous savez.
Vous croyez qu'ils ont agi simplement parce qu'ils se sentaient du PPRD et ne voulaient pas quitter?
Non, ce n'est pas tellement cela, mais là je parle des frustrations. C'est-à-dire il y a des frustrations réelles qui sont nées de tous les changements qui venaient d'intervenir. Et ces frustrations ont été aggravées du fait qu'on n'a pas tenu compte du côté social des rapatriements des diplomates.
Et donc il n'y a rien de politique, ils ne sont pas frustrés parce qu'ils sont changés, mais ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas reçu leurs droits, par exemple l'argent nécessaire pour les rapatrier.
Oui, le côté social est venu donc envenimer la situation, mais il faut reconnaître que la politisation au niveau de la diplomatie nous apporte là déjà ces premiers problèmes. Et nous pensons que pour l'honneur du pays, il y a lieu qu'on puisse réparer les choses le plus rapidement possible.
Chantal Kanimbo, vous pensez que c'est au fait une politisation de l'affaire de la diplomatie congolaise qui a emmené à cet imbroglio en France, par exemple. C'est la même chose aussi en Angleterre, parce que notre ambassadeur en Angleterre aussi s'est plaint. Est-ce que c'est cette situation politique ou c'est un vrai problème social? On ne veut pas le gouvernement attarder de payer les emoluments. Je rappelle que 5 mois, ils n'ont toujours pas été
payés. Il y a un peu de tout ça. Il y a des problèmes politiques, bien entendu, par rapport à cette logique des composantes qui veut qu'on se partage tout, même la diplomatie. Il y a eu un grand débat sur les entreprises. Bon, c'est passé. Bon, maintenant, on essaie d'avaler la pilule. Maintenant, c'est la diplomatie. C'est l'accord global et inclusif, nous dira-t-on. Mais jusqu'à ce point-là, moi, je crois que c'est vraiment regrettable. OK. Ils ont voulu tout se partager, d'accord. Mais si la question du partage à la diplomatie a traîné, c'est parce qu'on voulait régler d'abord les arriérés des rémunérations quand même des diplomates. Il fallait régler d'abord cette question-là avant de partager. Et on n'a pas partagé partout, justement. On a choisi quelques ambassades dans le monde pour les partager en se disant si on prend tout, on n'y arrivera pas parce qu'il y a des implications financières. Moi, je me disais que la question était réglée et qu'on avait trouvé tous les moyens nécessaires pour régler tout ce qu'on devait à ceux qui devraient partir et donner les moyens à ceux qui devraient arriver pour pouvoir quand même représenter valablement notre pays à l'étranger. Qu'on en arrive à ça, à un ambassadeur qui doit partir, qu'on accuse d'avoir cherché à cambrioler l'ambassade en emportant les instruments de travail. Enfin bon, l'enquête policière de la police française peut-être va déterminer la vérité et les faits dans tout ça, mais je trouve que c'est quand même regrettable.
Si c'est regrettable, à qui la responsabilité?
Mais la responsabilité au gouvernement. C'est le gouvernement qui devrait réunir tous les moyens pour faire partir ceux qui étaient là depuis de longues années sans avoir jamais reçu ce qu'ils devraient recevoir et donner à ceux qui arrivent tous les moyens nécessaires pour représenter valablement notre pays.
Merci Odia. Je rappelle que vous êtes de Horizon 33.
Oui, je vais peut-être faire plus brève puisque pratiquement tout a été dit, mais je voudrais me pencher plus sur le côté social. Le problème est effectivement plus social que politique. Vous connaissez la situation de nos ambassadeurs hors du pays et vous savez qu'il y en a qui sont devenus pratiquement des commerçants puisqu'ils ont eu des passeports diplomatiques, leurs épouses effectivement. Ils reçoivent pas régulièrement leur rémunération et tout, comme vient de le dire Madame Chantal. Donc c'est un problème sérieux de ce côté-là. Avant de penser à en placer d'autres, il faudrait songer à la manière de rapatrier ceux qui étaient déjà aux affaires de l'autre côté. C'est par là qu'il fallait commencer. On a un peu placé la charrue avant le bœuf. Il fallait s'y attendre. Quand on a travaillé, on a droit à un salaire. Et si ça ne vient pas, on a le droit de réclamer. C'est tout à fait logique.
Interpellation des ministres à l'Assemblée nationale, troisième sujet de cette tribune de presse. Depuis le 25 octobre dernier, 10 ministres répondent sur 14 points qui relèvent de politique générale de la nation. Pour cette semaine, le ministre de Justice qui a clôturé la série a répondu sur la demande de députés sur la mise en accusation des 6 ministres révoqués. Ici, c'est encore un autre point d'imbroglio. L'Assemblée nationale attend du gouvernement une action de mise en accusation, tandis que le gouvernement attend de l'Assemblée. On écoute d'abord le point de vue de ministre de Justice Kissim Bangoy qui pense que c'est de la responsabilité du gouvernement de lancer cette mise en accusation.
La mise en accusation de ces anciens membres du gouvernement, ça relève de la compétence exclusive de l'Assemblée nationale qui doit être traduite devant la Cour suprême de justice. Quand on parle de la Cour d'appel de la Gombe, il a ouvert le dossier suivant. Un dossier contre Berero, un dossier ADG de Koïdo, un dossier contre Ibanza Mayanga, ADG de RVA et consorts. J'ai souhaité signaler à l'Auguste Assemblée que tous ces dossiers ont une implication avec le dossier de bénéficiaires des immunités. Autrement dit, ils soit en corréité, soit en complicité avec des ministres, ce qui bloque le parquet général de pouvoir, disons, agir. Parce qu'ils devront être tous traînés devant la Cour de justice avec les comptes ou les complices qui jouissent des privilèges des juridictions. Et dans le cas d'espèce, aussi longtemps que l'Assemblée nationale n'a pas mis en accusation ces gens-là, les dossiers concernant les mandataires impliqués au moment qu'eux traîneront.
C'était là le point de vue du ministre de Justice, Honorius Kissimbangoy, qui pense que c'est à l'Assemblée nationale de lancer la procédure de mise en accusation. Mais à l'Assemblée nationale, c'est un autre point de vue, on attend plutôt du gouvernement de saisir l'Assemblée nationale avant toute mise en accusation. On écoute ici Raphaël Houlou, rapporteur à l'Assemblée nationale.
Si le ministre dit qu'on ne sait pas aller jusqu'au bout, dites-moi, c'est l'Assemblée nationale qui ne sait pas aller jusqu'au bout ou c'est la justice qui ne sait pas aller jusqu'au bout ou c'est la justice qui ne fait pas son travail? Je demande au ministre, au nom de l'Assemblée nationale, que le ministre laisse la justice faire son travail et aller jusqu'au bout. Parce que le dossier déjà, vous me donnez raison à ce moment-là, que le dossier est déjà entre les mains de la justice.
Mais il y a des implications du ministre.
Les implications du ministre, c'est à ce moment-là que le ministre, la justice ou le président de la Cour suprême de justice va saisir l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale fasse son travail au regard de l'article 144. Demandez au ministre, est-ce que la justice a saisi l'Assemblée nationale pour dire « Nous sommes bloqués, nous ne savons pas aller parce qu'il y a implication des ministres ». Non, ça veut dire que notre institution a fait son travail, il appartient à la justice de faire le sien.
On commence par vous, Nancy Audia. Vous avez entendu le ministre et le rapporteur de l'Assemblée nationale, il s'y renvoie la balle. Quelle est votre interprétation?
Ouais, c'est un jeu de ping-pong, hein, et puis on sait à quoi ça va aboutir. Après, on va oublier, on n'en parlera plus, ce sera fini, affaire close, conclue, c'est fini. C'est comme ça, le règne de l'impunité. Moi, je me demande pourquoi ils continuent à interpeller, puisque finalement, il n'y aura pas de sanctions. Au lieu de passer à l'essentiel, voter la loi budgétaire qui doit être votée, en fait, durant cette session d'octobre, qui est essentiellement budgétaire, la loi électorale qui traîne, la loi sur l'amnistie qui fâche les composantes. On s'attarde sur des débats qui ne vont aboutir finalement à rien du tout, parce que personne ne voudra qu'un ministre qui est de sa composante soit effectivement sanctionné. C'est un parlement de composantes, tous viennent de différentes tendances politiques. C'est en fait, si je veux un peu utiliser le même terme que la fois passée, c'est un peu du formalisme. C'est juste pour se laver un peu la face. Voilà, le Parlement, nous avons fait quelque chose. Il y a eu mégestion, malversation financière. Nous avons interpellé ces gens. Et ben voilà, c'est à la justice de faire son travail. C'est juste question de se laver la face aux yeux du peuple congolais. Mais à vrai dire, il n'y a rien qui pourrait être fait.
Et donc pour toi, ces jeux-là, ça ne consacre au fait que l'impunité.
Ben oui, il n'y aura rien qui sera fait, il n'y aura pratiquement rien dans les sens de mettre fin à l'impunité. C'est un système, c'est peut-être que ça commence du sommet à la base, donc vous voyez que c'est un peu compliqué.
Victor Ayobi.
Je déplore le consensus autour du mal qui est créé au niveau de la classe politique. C'est vrai que le gouvernement comme le Parlement, ils peuvent continuer à faire le jeu là jusqu'au bout, mais il y a la sanction de la population. Au travers de l'interpellation, la population a pu obtenir un certain nombre d'éléments d'information sur la mégestion consacré des affaires de l'État, comment les ministres, comment les mandataires publics sont en train de spolier des terrains publics, des maisons de l'État et autres. Moi, je crois que c'est question de patience. On peut laisser encore ce Parlement faire ce qu'il fait et les gouvernements continuent avec leur consensus, mais d'ici juin 2006, on aura les élections et le peuple va sévèrement sanctionner.
De l'autre côté, pour les cas, par exemple, de ces 6 ministres, il faudrait attendre les élections pour une sanction populaire, c'est ça?
Ça, c'est l'évidence, parce que le Parlement comme le gouvernement, les uns comme les autres, nous ont démontré qu'ils ne peuvent rien faire pour le moment. Vous savez, il y a eu le cas de ministre Olengankwo Idiomi qui avait été suspendu jusqu'à ce jour. C'est vrai qu'il y a des dossiers qui ont été constitués, mais la justice est bloquée. Quelque part, dans notre pays, nous devons déplorer, dans la perspective de la Troisième République, d'avoir une institution judiciaire qui ne marche pas.
Mais alors, est-ce qu'ici, la responsabilité est d'abord des institutions judiciaires ou de l'Assemblée nationale qui doit formuler une mise en accusation, comme le dit si bien la Constitution?
Oui, l'Assemblée nationale a dit ceci, qu'elle est prête à formuler une mise en accusation, mais elle doit être saisie par le gouvernement. Or, c'est au niveau du gouvernement que tout est bloqué.
Est-ce que c'est au niveau du gouvernement, Chantal Kanyimbo? Je rappelle que vous êtes de la RTNC.
Oui, je ne sais pas très bien. J'aurais bien voulu relire encore la Constitution pour connaître les dispositions qui sont prévues. Mais moi, à ce niveau, je crois que c'est jeu qui joue de se renvoyer la balle. C'est la conséquence du verrouillage de l'accord global et inclusif, où on a tout verrouillé pour que les uns et les autres n'arrivent pas à faire tomber les uns et les autres, pour que tous demeurent ad vitam aeternam au pouvoir jusqu'à l'organisation des élections. Je crois que c'est ça la conséquence.
Alors, est-ce que c'est l'impunité qui est consacrée par la Constitution,
mais oui,
c'est l'impunité qui est constituée, qui est consacrée dans le chef, justement, des animateurs?
C'est consacré dans l'accord global et inclusif. C'est la dictature des composantes, comme on dit. Personne ne peut faire partir l'autre. Le ministre Kissine Bangoy, la première fois qu'il a pris la parole, il a rappelé ça aux députés en leur disant, conformément au texte, ils n'ont aucun pouvoir de faire tomber qui que ce soit. Donc c'est la conséquence. Comme ils se sont arrangés à Sun City pour tout verrouiller, pour se protéger les uns des autres, et on en arrive là à une situation où il y a des ministres qui ont été suspendus parce qu'il y avait des accusations qui pesaient sur eux. Et Yobi a rappelé le cas de Oling Ankoy et de Diomi. Rien n'a été fait, ils ont été remplacés, rien n'a été fait. Les six autres, rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Et les ministres de la Justice disent non, nous sommes prêts. Des dossiers ont été constitués au niveau de la Cour suprême de justice, mais c'est le Parlement qui doit mettre en accusation ces ministres pour que la justice puisse agir. Et le Parlement dit, ah non, nous attendons que le gouvernement nous demande... Arrêtez de rigoler quand même.
Si les politiciens, si l'Assemblée nationale et le gouvernement s'envoient comme ça de balle, mais au-delà de tout, comment on peut juger le rapport entre ces deux institutions actuellement? Le rapport entre le gouvernement et l'Assemblée nationale? Merci.
C'est un rapport de complexité, excusez-moi. J'ai l'impression qu'ils se complètent. Ils savent ce qu'ils font, c'est un peu comme vient de le dire Madame Chantal, c'est tout est verrouillé, le Parlement, et en fait, je crois que le rapporteur ne me le pardonnerait pas, devient en fait une caisse de résonance du gouvernement.
Mais si c'est vrai que c'est une caisse de résonance, ils allaient en principe dire la même chose, mais il semble que c'est pas vraiment.
Mais oui, en fait, il y a discordance, mais pour atteindre un même but. Arriver à
dans le mal, comme dit
franchement, oui.
Victor et Obi.
Oui, c'est un peu ça. Le problème, ce ne sont pas les textes. Peut-être les textes aussi, mais en grande partie, c'est un problème d'homme. Je crois que pour que vous soyez honnête, il ne faudrait pas qu'il y ait des textes qui garantissent des principes d'honnêteté et tout. Non, c'est d'abord l'homme lui-même qui se dit, voilà, je vais servir mon pays, je suis ministre à tel poste, mon travail, c'est ça, je vais tout faire pour l'intérêt du peuple congolais. Il ne faut pas seulement qu'il y ait des textes pour... franchement, ils ne sont pas des enfants, ce sont des personnes qui se sont bourrées de diplômes, qui ont une certaine maturité intellectuelle, qui devraient plus se mettre au profit du peuple congolais. C'est un problème d'homme.
Oui, ce que je déplore le plus dans ces verrouillages, c'est que le pouvoir de contrôle du Parlement est pratiquement anéanti. D'autant plus que ces parlements, même quand ils procèdent aux interpellations et autres, ne peuvent pas aller jusqu'à la sanction.
Mais là, c'est consacré par le texte. Mais si aujourd'hui, la Constitution donne quand même le droit à l'Assemblée nationale de formuler des mises en accusation pour des ministres qui sont rendus responsables de certains méfaits de mégestion lorsqu'ils étaient en poste. Mais c'est un pouvoir qu'il faut savoir utiliser.
Oui, ils refusent.
Il faut encore incriminer les textes, il faut incriminer justement ces animateurs.
Oui, c'est ce que Nancy venait de dire tout à l'heure, c'est un problème d'hommes. Et ces hommes sont comme dans une concertation où ils ont décidé de fermer les yeux. Chacun est en train de puiser dans la perspective des élections. Mais nous disons ceci, qu'aux élections, le peuple va sanctionner. Il n'y a pas que le peuple. Il y a la communauté internationale. Le Conseil de sécurité, la délégation du Conseil de sécurité vient de rappeler encore la nécessité de poursuivre la construction de l'État par la bonne gouvernance.
Chantal Kayombo, dernier mot pour la fin.
Non, moi je crois que le peuple, justement, qui regarde tout ça et qui sera appelé à voter, devrait prendre ses responsabilités à la place de ses dirigeants qui, malgré les textes qui existent, leur donne un certain nombre de responsabilités. C'est vrai que l'interpellation n'aurait pas abouti à quelque chose politiquement, parce que tout est verrouillé dans l'accord global et inclusif, mais quand même, le Parlement aurait pu prendre ses responsabilités et mettre en accusation les membres du gouvernement qui ont été accusés d'indélicatesse quand même. Mais effectivement, je crois qu'il vaut mieux peut-être attendre les élections pour que le peuple puisse sanctionner normalement tous les acteurs politiques congolais.
Je ne pense pas que la sanction sera positive.
Ah non.
Merci beaucoup à Nancy Odia de Horizon 33. Nancy, tu totalises pratiquement 4 semaines avec nous.
Ah oui,
Merci beaucoup pour toute ta prestation dans notre tribune de presse. Victoire Eodirisra et Chantal Kayumbo pour la prochaine tribune de presse vendredi prochain. Merci beaucoup à vous, les auditeurs qui avez suivi cette émission. On se retrouve lundi prochain pour un premier numéro de Dialogue entre Congolais.